Bonjour à tous, merci d'être encore là depuis ce matin, de résister à cette journée fort passionnante, mais comme tout travail intellectuel, fatigant aussi. Alors, on va démarrer cette quatrième table ronde qui s'intitule « Questions de genre ». Donc, le titre même de cette quatrième table ronde invite à une interrogation de la recherche du monde sur le monde privé des ouvriers dans une perspective de sociologie du genre ou de sociologie des rapports sociaux de sexe. Évidemment, en 1980, lorsque cette recherche a été faite, ces sociologies du genre ou des rapports sociaux de sexe imprégnaient beaucoup moins les recherches qu'aujourd'hui. Et le propos du monde privé des ouvriers était ancré dans une approche sociale, dans la restitution et l'analyse des classes populaires, et n'avait pas vocation ou n'avait pas défini le projet de s'intéresser et de se placer dans cette perspective de genre ou de rapports sociaux de sexe. Mais alors, si j'osais, c'est là que je vais être intrépide, je vais faire une comparaison et comparer Olivier Schwartz à Monsieur Jourdain. Lui ne fait pas de la prose sans le savoir, mais finalement, quand on lit le livre « Le monde privé des ouvriers », on se rend compte qu'il fait de la sociologie du genre ou des rapports sociaux de sexe sans le savoir, puisqu'il apporte des éléments très éclairants et d'une très grande richesse pour comprendre les rôles, les identités masculines et féminines, les relations entre les sexes dans le milieu ouvrier. La présentation de ce matin de Dominique Mémy était à cet égard tout à fait parlante, éclairante, hein, avec son titre « Leurs désirs font désordre, l'aliénation féminine au prisme de la condition ouvrière ». Elle l'a très bien montré. Le livre montre très bien aussi l'aliénation des désirs féminins, les relations entre les sexes et au sein et entre les personnes d'un même sexe. Par exemple, hein, les places occupées successivement comme fille, épouse, mère, les trajectoires hein, où ces jeunes femmes sortent de leur famille d'origine avec l'espoir d'une émancipation qui est le plus souvent déçu, on l'a vu, et qui va se marquer dans leur corps, avec notamment la prise de poids. Donc les relations entre les mères et les filles, faites de tensions de transmission, les relations de couple, avec l'épouse qui endosse une fonction de substitut de mère dans la prise en charge de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, on dirait du care. Hein. Donc les récits masculins, féminins, de l'expérience de la violence aussi, hein, pour ne citer que quelques aspects, montrent bien hein, que cet ouvrage eh bien, est justement très éclairant dans cette perspective de genre ou de rapports sociaux de sexe. Donc on va avoir dans cette table ronde deux présentations qui vont justement permettre soit d'actualiser les connaissances du monde ouvrier et de questionner justement la relation, pas la filiation, mais la relation hein, entre le monde privé des ouvriers et puis cette sociologie du genre ou des rapports sociaux de sexe beaucoup plus présente aujourd'hui. Donc je vais donner la parole tout de suite à Olivier Masclet, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Descartes et chercheur au CERLIS, et qui travaille sur la stratification sociale, sur l'analyse des mobilités sociales aussi, et donc qui va nous parler du monde privé féminin, enfin du monde privé des ouvriers féminin, si j'ai bien compris.
À peu près, ouais.
Voilà, je ne sais pas dans quel ordre, mais voilà. Merci beaucoup.
D'abord, merci à Nicolas et à Cédric pour leur invitation et aussi d'avoir organisé d'avoir pris l'initiative de cette journée autour du monde privé. Ça me semble vraiment, vraiment une très très belle initiative et je vous en remercie. Je voudrais essayer d'expliquer comment j'utilise ce livre, Le monde privé, dans une recherche que je mène en ce moment sur la question du temps personnel des femmes des classes populaires, c'est-à-dire, bon, les loisirs, mais plus fondamentalement peut-être ce que Olivier Schwartz, dans ce livre, a appelé ces moments où l'on s'appartient, un terme très fort qui revient très fréquemment dans son livre. Bon, a priori, c'est pas ce livre vers lequel on se tournerait en premier, parce que ce thème du monde privé féminin n'est pas central dans l'ouvrage. Pourtant, il me semble que sa lecture demeure fondamentale, je veux dire, par de là l'effet que ce livre a eu sur moi, comme sans doute sur un grand nombre d'entre nous, et pas seulement Anna Perrin-Hérédia. Ce livre s'impose, je crois, pour penser les aspects contemporains du monde, du mode de vie des classes populaires, des hommes et des femmes appartenant aux univers populaires. Je crois qu'il s'impose au moins sur un double plan. D'abord, il s'impose au plan de l'histoire et des évolutions sociales. En ayant en tête la situation des femmes du Nord, étudiée par Olivier Schwartz, on ne peut pas ne pas se dire qu'une page s'est définitivement tournée. Pourtant, ce livre incite en premier lieu à penser le présent, sous l'angle des transformations sociales. Sous quelle forme, selon quelle signification l'autonomie féminine apparaît-elle aujourd'hui? Jusqu'où les évolutions sociales globales, le retour massif des femmes à l'école, au travail, pardon, la prolongation, le prolongement des scolarités, les modes de contraception, etc. Jusqu'où toutes ces évolutions sont allées dans le sens d'une indépendance des femmes, jusqu'où elles ont pénétré les modes de vie, les manières de se représenter des femmes des classes populaires. Ensuite, il me semble que l'ouvrage d'Olivier Schwartz est utile sur le plan de l'analyse des rapports au travail salarié, de la position dans laquelle les employés, les ouvrières d'aujourd'hui sont à l'égard du travail tel qu'il se présente à elles. Donc, des réponses que ces femmes apportent à la subalternité au travail. Pour dire peut-être les choses plus directement, il me semble qu'on apprend beaucoup sur le temps personnel des femmes ouvrières et employées pas ou peu qualifiées d'aujourd'hui à la lecture de toutes les pages qu'Olivier Schwartz a consacrées aux hommes et à la manière dont ceux-ci s'efforcent de reconquérir à travers différents usages du temps libre une part d'autonomie ou une part de liberté. Donc c'est sur ces deux plans, à la fois celui des évolutions de la condition féminine populaire et celui du temps pour soi comme rupture avec la condition subalterne, que je voudrais ici m'arrêter en me fondant sur l'enquête que je mène actuellement sur la question de la diffusion de la norme du temps personnel parmi les ouvrières et les employés d'aujourd'hui. Alors cette enquête, elle s'inscrit dans un cadre collectif dont le questionnement est multiple et aussi assez ambitieux, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de penser le populaire aujourd'hui, penser ce qu'il en est aujourd'hui de la division sexuée, du rapport entre nous et eux, du rapport à la condition présente. Sur toutes ces questions, il nous a semblé, je dis nous en fait, parce que collectif de recherche qui comprend 25, une vingtaine de chercheurs, les données sur lesquelles on travaille ont été produites collectivement. Il s'agit principalement de monographies de ménages et aussi d'exploitation statistique. Donc, il nous a semblé que finalement, on en savait assez peu, ou bien sur ce populaire d'aujourd'hui, ou bien les recherches sur le populaire portent surtout sur le travail. On est en train de repérer à travers la bibliographie depuis les années 80. On a un chiffre à peu près de 90-92% des publications qui sont centrées sur le travail, c'est-à-dire que tous les aspects du privé, de la famille, sont parents pauvres, finalement, de cette sociologie du populaire. Ou bien ces recherches ont tendance à faire fonctionner sans trop d'examen les concepts forts hérités de Hogarth, de Bourdieu, Véret, Grignon ou Schwartz. Or, il s'agit pour nous de penser avec ces chercheurs, et pour reprendre l'expression de Hannah, aussi contre eux, dans la mesure où l'on ne peut pas faire comme si la situation sociale, la situation actuelle demeurait identique à celle décrite des années 60 aux années 80. Donc dans ce cadre, je me pose plus particulièrement la question de l'existence d'un monde privé populaire féminin en m'aidant du livre d'Olivier Schwartz, à la fois en pour et en contre, d'où le titre de mon intervention, pour le repréciser, le monde privé se décline-t-il au féminin dans les classes populaires d'aujourd'hui? Bon, je vous rassure, ma réponse sera positive, sans l'ombre d'une hésitation, par rapport au monde privé des ouvriers, les femmes que nous avons rencontrées, qui ont peu de qualifications professionnelles, mais qui vivent en couple, dont le ménage peut être situé dans les fractions médianes des classes populaires, ces femmes révèlent une nette distance au modèle de la femme au foyer dont Olivier rendait compte, c'est-à-dire privée de tout élément de vie personnelle. Mais ma réponse sera aussi de dire que le temps personnel de ces femmes doit être étudié dans toutes ses conditions sociales de possibilité et donc très fidèlement aux analyses déployées dans le monde privé des ouvriers. Alors avant de développer cette réponse en deux temps, je rappelle d'abord, même si c'est à gros traits, les éléments de définition proposés par Olivier Schwartz s'agissant du privé, s'agissant du monde privé, quitte à répéter peut-être des choses qui ont déjà été dites ce matin, ces éléments qui figurent dans le premier chapitre et surtout dans les pages dédiées à l'analyse des espaces de recomposition masculine. Le privé peut être abordé selon trois perspectives. Il renvoie en premier lieu au chez-soi, à l'intime, au secret et privé ce qui est soustrait aux normes sociales et au regard des autres. Dans un deuxième sens, le privé renvoie à la sphère des choses personnelles, donc non réductible au commun, non réductible à ce qui est accessible à tous. Et on est ici au cœur de ce qu'Olivier Schwartz désigne comme la sphère des avoirs. Enfin, dans un troisième sens, le privé convoque beaucoup plus fortement l'idée de l'être. Il désigne, et ici je cite Olivier, il désigne une sphère d'autonomie et d'auto-appartenance, un espace de souveraineté où les acteurs, tendanciellement au moins, se présentent comme des individus déliés des grandes suggestions sociales. À différents endroits, dans son livre, Olivier Schwartz parle aussi de monde propre, de tiers-espace, d'air d'autonomie, de secteur non hétéronome, d'îlots strictement individuels ou encore de troisième lieu. Autant d'expressions pour décrire une fonction et un public. Une fonction, celle de la reconquête d'une liberté et de nouveaux possibles. Le privé de type 3 fait toucher à l'individu singulier la possibilité du désenfermement, de la déclôturation de l'espace, à la fois l'espace du travail, le travail subalterne, où n'ouvrant pas de perspective ascendante, et l'espace de la famille, régi par l'épouse. Ce privé, qui ne se réduit ni au chez-soi, ni à la sphère des avoirs, renvoie à un public précis. Il s'agit fondamentalement des hommes. Olivier Schwartz parle de vie privée masculine et d'espace privé féminin, mais jamais de vie privée féminine ou d'espace privé féminin. La raison en est simple, on la sait tous, dans l'univers, parce qu'on a tous lu ce livre, dans l'univers des ouvriers du Nord tel qu'ils l'observent au début des années 1980, la division traditionnelle entre les sexes gouverne encore très fortement à la fois les corps et les désirs. Les hommes se définissent d'abord par leur position extérieure, à la fois par le travail et la paye qu'ils ramènent à la maison et que souvent ils remettent à leur épouse, dont la fonction est de garantir un lieu sûr. Les hommes ont en commun la liberté de pouvoir circuler de l'extérieur à l'intérieur. Leur monde est bipolaire, quand celui des femmes est unipolaire. Je cite, « Il est constitué d'un centre unique et sans alternative. Toute l'histoire de ces femmes concourt en fait à les refouler sur le terrain familial et à les priver des moyens de sortir. Études courtes ou scolarité d'autant plus vite abandonnées qu'en fait on n'attendait pas qu'elles réussissent. Absence de qualification et travail vite interrompu à la naissance du premier enfant. » Une formule assez tragique, Olivier Schwartz énonce ainsi leur destin. En fait, le mariage constituait pour elles le programme le plus crédible de réalisation personnelle dans un itinéraire marqué par l'impossibilité de s'appartenir. Trois traits, dès lors, résument leurs conditions. Mariage précoce, progéniture nombreuse, existence confinée dans les limites du foyer. Cela veut-il dire que ces femmes ne disposent d'aucune vie personnelle ? Pour la plus grande partie d'entre elles, cette vie se tient dans les limites très étroites du cadre d'habitation, des relations avec les voisines, très vite considérées comme des copines, et des relations avec leur propre mère. La mère, près de qui il est toujours possible de se retourner, qui offre aux filles que sont ces femmes, je cite Olivier, la confirmation qu'il y a toujours un lieu où elles sont créditrices, où elles peuvent formuler une demande. Ces femmes qui sont recluses et souvent seules chez elles peuvent évoquer positivement ces moments de solitude. À l'image de Madeleine, qu'on voit apparaître dans l'ouvrage, qui, comme beaucoup d'autres femmes des îlots, fait totalement corps avec son foyer, au point de mal supporter que son mari y stationne trop longtemps. Elle gouverne son intérieur et celui-ci est propice aussi aux rêveries. Madeleine dit « Moi, quand je suis bien, c'est quand je suis seule dans ma maison, et puis que je fais mon repassage, c'est là que je suis bien. » Mais déjà, au début des années 80, tout un ensemble de femmes trouvent à travers le travail salarié la possibilité d'échapper aux limites du foyer et donc d'autres possibilités d'évasion que les pratiques solitaires ou mélancoliques, qu'elles soient associées aux tâches ménagères ou à la télévision. Mais la vie de ces femmes à l'extérieur du foyer est peu décrite dans le monde privé des ouvriers, peut-être parce que celle-ci l'évoque peu dans les entretiens. Il faut dire que pèse sur ces femmes constamment l'accusation de déserter le foyer. On peut prendre l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure déjà, en tout cas le couple qui a été évoqué tout à l'heure, celui de Marilyn Mounier et de son mari André. Marilyn qui travaille comme secrétaire, qui est déléguée CGT, elle appartient aux strates supérieures du monde ouvrier, Avec son mari André, ça a été dit, hein, je répète, elle partage un projet d'ascension, accès à la maison, désir de progresser professionnellement, désir aussi de voir leurs deux filles réussir à l'école. Mais pour affirmer son autonomie, Marilyn doit se battre. Et à plusieurs reprises, elle a déjà menacé André de le quitter. André se montre en effet hostile, très hostile même, à l'idée que sa femme ne corresponde pas au modèle auquel lui il a été socialisé, c'est-à-dire le modèle de l'épouse-mère, tout le temps présente, corvéable, disponible. Lui-même, tu le rappelais, est très présent à l'intérieur. Il a fait du foyer tout spécialement de son bureau, bon, qu'il occupe au premier étage de sa maison, le centre de sa propre identité sociale. Alors, il a fini par lâcher du lest, André, mais il n'a pas renoncé pour autant à voir sa femme le servir. Écoutons-la, il ne m'a jamais dit non, il m'a seulement dit « tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas que la maison s'en ressente ». Alors, on comprend, en lisant le portrait qu'en dresse Olivier Schwartz, que Marilyn oscille entre deux états de femme. Entre celui de la femme asservie et disponible pour la famille et puis celui de la femme à qui le travail procure les ressources pour affirmer une indépendance. Madeleine, donc, qui a fait de son foyer un refuge, et Marilyn, qui cherche à conquérir une autonomie, représentent deux pôles opposés au regard de la liberté de disposer d'un monde propre affranchi de l'intérieur et de la quotidienneté. Question ? Auxquelles de ces deux pôles les femmes des classes populaires apparaissent-elles aujourd'hui plus fréquemment? Alors, je présente maintenant mon enquête en procédant en deux temps. D'abord en commentant un ensemble de résultats tirés de l'enquête emploi du temps, puis en analysant les données tirées des monographies des ménages ouvriers et employés. Toutes ces données laissent penser qu'il y a aujourd'hui, parmi les ouvrières et les employés, sans doute plus de Marilyn que de Madeleine. Certains résultats de l'enquête de l'INSEE, que j'évoque maintenant, semblent confirmer cette hypothèse, mais d'autres résultats tirés de cette même enquête incitent au contraire à la prudence, ou du moins à considérer que la page de la subordination féminine n'est pas complètement tournée, loin s'en faut. L'enquête emploi du temps contient un module intitulé « Décision dans le couple » qui interroge les femmes, des femmes et des hommes vivant en couple, notamment sur le temps personnel. Une question leur demande « Essayez-vous, dans l'organisation de vos activités, de garder du temps rien que pour vous ?» À cette question, 6 ouvrières et employés sur 10 disent oui. Un niveau de réponse positive aussi élevé semble indiquer qu'une très large partie des femmes des classes populaires ont repris à leur compte la norme du temps personnel, en tout cas qu'elles la connaissent et peut-être qu'elles cherchent à se l'approprier. En même temps, c'est toujours moins que les femmes des catégories moyennes et supérieures qui répondent oui, plus de 7 fois sur 10. Et plus les questions se précisent, plus l'écart s'amplifie. À la question « Vous arrive-t-il de temps en temps, au moins 2 fois par an, de prendre un jour de congé pour vous seul ?» 21% des ouvrières et 28% des ouvriers disent oui, contre 40% des femmes profession intermédiaire et 44% des cadres. À cette autre question, avez-vous une activité, hobby, loisir, à vous, que vous faites par plaisir, sans conjoint ni enfant ? 42% des ouvrières et 45% des employés disent oui, contre 63% des femmes cadres et professions intermédiaires. Interrogées sur les raisons pour lesquelles elles ne prennent pas de congé pour elles, en tout cas beaucoup moins, ou qu'elles n'ont pas d'activité à elles, les ouvrières et les employés déclarent toujours plus que les autres femmes, 20 points d'écart les séparent, que c'est parce qu'elles n'ont pas envie ou que cela ne les intéresse pas. Ces chiffres incitent à penser que toutes les évolutions sociales qui sont allées dans le sens d'une plus grande autonomie pour toutes les femmes, y compris pour les femmes des classes populaires, ne procurent pas à toutes, et pas sous les mêmes formes en tout cas, la possibilité d'accéder à un monde propre. Alors, je vais évoquer ici 3 éléments qui éloignent les moins qualifiés et les moins diplômés d'entre elles du temps pour soi, du moins tel qu'il apparaît dans les questions de l'INSEE, c'est-à-dire comme temps actif, coupé du familial, favorable à l'épanouissement personnel, ces fameuses activités faites par plaisir. Un premier élément tient au caractère sélectif des loisirs, et des hobbies dont toutes les études montrent que la pratique continue d'être corrélée aux revenus et aux diplômes, et cela d'autant plus étroitement que cette pratique se déroule en dehors du foyer et qu'elle suppose de s'extraire de la quotidienneté. Autrement dit, le manque d'argent, le manque d'éducation, d'instruction, enferme au foyer et cloue devant le téléviseur, comme Olivier Schwartz l'observait déjà il y a 30 ans, il cloue aujourd'hui beaucoup sur Internet. Le deuxième élément renvoie plus directement aux assignations sexuées, qui restent fortement accentuées dans les univers populaires. Certes, l'enquête Emploi du temps fait ressortir que, quelles que soient leurs conditions sociales, les hommes déclarent toujours plus que les femmes avoir une activité faite par plaisir sans conjoint ni enfant. Mais c'est dans les catégories populaires que cet écart entre les femmes et les hommes est le plus prononcé, 20 points contre 2 parmi les cadres et les professions intermédiaires, si on se base sur cette enquête. Enfin, le dernier élément apparaît comme un facteur déterminant des identités féminines populaires d'aujourd'hui. Il s'agit évidemment du travail. Alors, je ne peux pas être long sur ce point. Précisons quand même qu'un ensemble d'inégalités qui frappe les classes populaires frappe plus particulièrement les femmes. Elles sont plus touchées par les temps partiels, elles occupent plus souvent des positions pas ou peu qualifiées, elles gagnent plus souvent des plus petits salaires. Ces inégalités inscrites dans l'ordre professionnel ont des conséquences dans l'ordre familial. C'est aussi dans les catégories populaires que les femmes dépensent moins pour elles. 63% des ouvrières et des employés déclarent que leur activité à elles n'entraîne pas de dépenses particulières, contre 42% des femmes, cadres et professions intermédiaires. On sait par ailleurs que les emplois ouverts aux femmes, dont la création a été très nombreuse depuis ces 30 dernières années, sont associés à l'intérieur. Femmes de ménage, assistantes maternelles, aides à domicile, et que les autres emplois qu'elles occupent sont assez généralement situés dans des secteurs marqués par des phénomènes d'intensification du travail. Grande distribution, commerce, entreprises de conditionnement, entrepôts de logistique, où les syndicats sont absents, où les collectifs de travail sont souvent traversés de fortes divisions entre salariés. À quoi il faut aussi ajouter le fait que les ouvriers et les employés, cette fois-ci des deux sexes, en particulier les moins qualifiés, sont les plus nombreux à travailler de nuit, ou à commencer tôt le matin, ou à connaître des journées fragmentées. Bref, il y a là autant de difficultés pour maîtriser son propre temps, autant d'inégalités face aux ressources relationnelles offertes par la sociabilité au travail. Ces trois éléments que je viens d'évoquer incitent à penser que le passage au travail salarié, même s'il est devenu une réalité massive dans les milieux populaires féminins, n'est pas nécessairement synonyme pour elles de désenfermement, pour reprendre un autre mot fort du livre d'Olivier. Au contraire, notre enquête, cette fois-ci à partir des entretiens répétés avec des femmes et des hommes de ménage populaire, notre enquête donc fait ressortir dans les modes de vie des femmes certains éléments décrits par Olivier Schwartz en termes d'unipolarité des existences féminines, c'est-à-dire d'une moindre circulation entre intérieur et extérieur. Alors, dans ces entretiens, on a procédé différemment que l'INSEE dans la mesure où on a évité de poser des questions trop normatives, parce que les questions de l'INSEE sont très normatives, celles que je viens de citer. On n'est pas parti d'une définition préétablie de ce que devait être le temps pour soi, mais on a essayé de le repérer à travers les mots ou les expressions utilisées par les enquêtées, par lesquelles elles-mêmes marquent leur temps. Un peu comme Florence Weber l'avait fait pour repérer le travail à côté des ouvriers de Montbard. C'est mon moment, c'est à moi, c'est comme ça que je peux souffler. Là, je respire, je me retrouve, je kiffe. Alors là, j'oublie tout, je suis dans mon domaine, c'est mon petit plaisir, là, je me pose. Donc ça, j'ai décidé que c'était mes moments à moi, donc même dans la douche, j'emmène mon bouquin. Et donc, le dimanche, je me maquille pas, je me douche, c'est tout, je reste en pyjama, voilà, je glande, mais c'est bien. Vous voyez, autant de manières qu'ont ces femmes d'indiquer que certaines pratiques révèle d'un autre ordre que celui de la famille et des moments partagés, de suggérer l'existence d'un monde propre. L'intérêt de laisser les enquêtés marquer leur temps est de contourner l'obstacle de la hiérarchisation sociale des pratiques de temps libre, et donc de les inviter à inclure dans le temps pour soi des pratiques se conformant mal à la norme dominante du temps personnel telle qu'elle ressort de ces questions de l'INSEE que j'évoquais, c'est-à-dire comme temps actif, coupé du familial, favorable à l'épanouissement personnel. De les amener donc à saisir des pratiques qui se conforment mal à cette définition-là, mais qui néanmoins fonctionnent pour elles comme autant de manières d'affirmer leur propre espace d'indisponibilité. Alors, tentons de recenser ces pratiques. Certaines ont pour cadre le foyer, d'autres se déroulent à l'extérieur, en dehors. À cette première division intérieure-extérieure se superpose une autre division. Certaines incluent toute une part de familial, tandis que d'autres se présentent comme des activités plus strictement individuelles. Le croisement de ces deux dimensions fait apparaître, à partir des entretiens en tout cas, quatre modalités de temps pour soi. Les activités individuelles à l'intérieur, les activités individuelles à l'extérieur, les activités à base de familial à l'intérieur et les activités à base de familial à l'extérieur. Donc, un tableau à quatre cases qui montre, en fait, une répartition fort inégale des pratiques de temps personnel. Les pratiques les plus fréquentes, on peut s'en douter, se situent à l'intérieur et apparaissent étroitement mêlées au fonctionnement quotidien du foyer. Elles se déclinent pour quelques femmes en tricot, jardinage, lecture, et beaucoup plus fréquemment en télévision, décoration de la maison, jeux sur le téléphone, échange de plaisanteries par SMS, consultation de sites de décoration, de bonnes affaires, de mode, de people, de réseaux sociaux comme Facebook ou encore en soins du corps. Mais parmi toutes ces activités investies de dimensions personnelles par ces femmes, un ensemble non négligeable apparaît aussi clairement affranchi de l'intérieur et du familial. Ces femmes sortent entre copines, partent se promener, font les boutiques, pratiquent du sport en club ou vont danser ou chanter dans une chorale. En fait, quand on essaie de penser la manière dont s'effectuent les passages d'une case à une autre de ces tableaux, on repère que trois ensembles de facteurs peuvent expliquer ces variations du temps pour soi parmi nos enquêtés. En premier lieu, comme on peut s'y attendre, je crois, l'accès à un monde propre demeure chez ces femmes fortement corrélé au cycle de vie, à la relation avec le conjoint, à la force du nous familial. Les plus jeunes, qui ont des enfants en bas âge, investissent beaucoup plus l'intérieur que celles qui sont déchargées d'une grande partie du temps maternel. La liberté de s'appartenir, pour reprendre une autre expression d'Olivier, débute pour les femmes de notre corpus à partir de 40 ans. En deuxième lieu, le temps personnel à l'extérieur du foyer apparaît fortement dépendre d'un ensemble de ressources relationnelles. Contrairement aux femmes diplômées, c'est rarement seul que nos enquêtées ont franchi le pas des activités individuelles. Elles se sont laissées entraîner par des collègues, devenues des copines, ou, à défaut de collègues, ont convaincu leurs propres filles, devenues adolescentes, de pratiquer un loisir ou de partir en voyage avec elles. De ce fait, les femmes qui sont les plus enfermées à domicile sont, en tout cas dans notre corpus, celles qui ont peu de relations en dehors du cercle familial, à la fois parce qu'elles sont sans emploi, parce qu'elles travaillent peu d'heures à l'extérieur, parce qu'elles sont femmes au foyer ou en congé parental, mais aussi parce qu'elles peuvent être mères d'enfants en bas âge ou bien de garçons, les enfants offrant très inégalement, selon le sexe, des ressources possibles en termes d'évasion ou de sortie. On retrouve chez ces femmes plus isolées l'importance des contacts avec la mère et avec la voisine copine que tu évoquais dans ton livre, mais aussi l'attrait d'une activité comme la lecture qui avait déjà été soulignée à propos des générations précédentes. Enfin, les modalités du temps pour soi varient non seulement... Enfin, les modalités du temps pour soi varient non seulement selon que les femmes sont ou non en emploi, mais aussi en fonction du type de travail exercé. Les femmes qui investissent un tiers espace, alors même qu'elles ont des enfants en bas âge, ont un profil particulier parmi nos enquêtés. Ce sont fréquemment des femmes que le travail isole, que ce soit à domicile, dans le cas des assistantes maternelles ou des assistantes familiales, ou chez les clients, dans le cas des aides à domicile ou des femmes de ménage, et qui trouvent, à travers des activités à l'extérieur, souvent des activités sportives, la Zumba revenait énormément dans les entretiens, le moyen d'échapper à leur isolement et d'être de vraies actives. Ce temps personnel qui se dégage des récits des enquêtés revêt des modalités et des significations diverses. Attention, cependant, à ne pas le réduire à une fonction de simple palliatif face à l'absence ou à la perte de liens au travail ou dans la famille. Ce serait en fait s'interdire de voir qu'à travers ce temps pour soi s'affirme une exigence d'autonomie. Alors cette exigence était déjà visible dans le monde privé des ouvriers à travers l'image de Marilyn Mounier que j'ai évoquée. Chez les femmes près de qui nous avons enquêté, cette exigence apparaît avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de netteté. Alors elle n'est évidemment pas sans rapport avec la manière dont ces femmes conçoivent leur existence, c'est-à-dire non pas selon le modèle traditionnel, à travers le seul accomplissement domestique et maternel, mais aussi en lien avec le travail et l'identité professionnelle. Contrairement aux femmes du monde privé des ouvriers, le mariage et la maternité n'ont pas constitué pour elles l'unique horizon. Deux faits en témoignent. D'une part, elles se sont vite inscrites sur le marché du travail, entre 16, 19, 20 ans, le plus souvent à la suite d'un échec scolaire ou d'un abandon forcé des études. D'autre part, ces femmes sont restées actives après l'arrivée des enfants, la maternité n'interrompant jamais, en tout cas jamais longtemps, leur présence sur le marché du travail. Par rapport au monde privé, l'enquête met donc en avant la transformation des destins féminins. Transformation que Jean-Pierre Terraille situe dans les années 70, à la suite de la montée de la préoccupation scolaire dans les familles ouvrières et de l'aspiration chez les filles à la qualification professionnelle et pas seulement à l'emploi. Cette transformation des destins féminins se reflète dans la représentation que ces femmes ont d'elles-mêmes. Représentation d'elles-mêmes comme actives avec l'ensemble des droits afférents à cette condition, en particulier le droit au repos, le droit aussi à une vie privée en dehors du travail. Deux autres dimensions nourrissent cette exigence d'autonomie. D'une part, joue très fortement le regard critique qu'elles portent aujourd'hui sur leur mère, perçue comme malheureuse, sous la coupe d'un mari autoritaire, ou bien maniaque, peu aimante, n'ayant eu d'autre but que leur dévotion aux tâches ménagères. Ce procès fait à la mère, qui est indirectement aussi un procès contre l'élément masculin, le père, arme indiscutablement chez certaines la volonté de s'appartenir. D'autre part, les couples dans lesquels ces femmes sont inscrites, ces couples que nous avons interrogés, sans qu'on puisse pour autant les décrire comme égalitaires, ne fonctionnent pas non plus sur la base d'une stricte division sexuée. Certes, les femmes que nous avons rencontrées ne disposent pas du même temps libre. Certaines prennent en charge l'ensemble du travail domestique et s'en accommodent plus ou moins, quand d'autres obtiennent de leur conjoint qu'ils soient actifs au quotidien. Mais toutes, et c'est l'élément marquant, je crois, par-delà le degré de contrainte s'exerçant sur elles, expriment leur droit à une vie personnelle pleine et entière. Quelques cas. L'une des enquêtées, Florence Torelli, 46 ans, employée en grande surface, dit les choses très clairement. « Moi, j'ai pas eu beaucoup de jeunesse quand même. J'aime bien m'amuser, j'aime bien sortir. Donc, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'obligatoirement, on va être collés serrés sans arrêt. » Au moment de l'enquête, Florence Torelli sort fréquemment dans des bars avec d'anciennes collègues qu'elle décrit comme ses copines. Elle prévoit de partir avec elle au Baléares sans son mari. Une autre enquêtée, Cécilia Dufard, 40 ans, caissière en grande surface, une fille de 10 ans, utilise l'entretien pour redire à son conjoint pourquoi elle refuse de le suivre en forêt ou à vélo durant les dimanches après-midi comme lui le souhaiterait. Le dimanche, c'est son seul jour de repos. Elle entend bien le passer comme elle aime, c'est-à-dire devant la télévision, devant les sites de mode, devant les sites people, qu'elle consulte beaucoup sur Internet. On pourrait multiplier les exemples de ces femmes qui donc accèdent à, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, à une ère d'autonomie, pour reprendre une autre expression d'Olivier, une ère d'autonomie, une ère affranchie de toute obligation. Alors évidemment, cette autonomie reste fragile. Il faudrait citer une autre jeune femme avec des enfants en bas âge qui doit sans cesse reconquérir cette autonomie. Néanmoins, elle est là. Elle est là comme inscrite aujourd'hui dans le mode de fonctionnement normal du couple et de la famille. Alors, si j'ai encore une minute, je finis. Une minute. Alors, évidemment, l'existence de cette autonomie nous éloigne du monde privé des ouvriers. Mais une autre dimension du temps personnel propre aux femmes rencontrées nous y ramène aussitôt. Il me semble que leur monde privé ne peut pas être analysé indépendamment de la position qui est la leur au travail. Or, les réponses qu'à travers Ce monde privé, elles apportent à leurs conditions de travailleuses subalternes, ne sont pas sans faire écho aux réponses que Olivier Schwartz avait décrites 30 ans plus tôt à propos des hommes. Il me semble que comme ces hommes, les femmes, auprès de qui en tout cas nous avons enquêté, ces femmes investissent leur temps personnel d'une dimension de rupture. À travers le temps pour soi est très clairement posée une limite à l'appartenance à la condition subalterne. J'évoquais Florence Torelli, je reprends son exemple. Elle a renoncé, pour des raisons qui tiennent à son emploi et à l'absence de possibilité d'évoluer professionnellement, elle a renoncé à tout espoir d'amélioration de son statut professionnel. Au moment où on discute avec elle, elle prévoit que d'ici 2-3 ans, elle arrêtera de travailler. Elle a calculé que le salaire de son mari, plus son chômage, plus le fait que la maison est maintenant payée, tout cela suffira pour équilibrer le budget. Ce qu'elle souhaite faire, c'est autre chose. Autre chose, se balader, seule ou avec son chien, voyager, si c'est possible, lire des livres, comme elle aime le faire, des livres d'évasion principalement, sortir avec ses amis, faire le marché, s'occuper de sa maison, de son jardin, de sa personne. On pourrait aussi évoquer Cécilia Dufard, que j'avais mentionné il y a quelques minutes, qui, chaque vendredi soir, en sortant du supermarché, achète Closer, Public, Oups, Voici, Glamour, qui, tous les jours, regarde les reines du shopping, toutes ces images rendant accessibles à des modèles d'élégance et de beauté auxquels elle cherche vraiment à se conformer. Il y a une dimension de revanche sociale, évidemment, chez elle, dans son cas, dans cette façon d'utiliser son temps à des fins, finalement, d'esthétisation de sa personne. Quand elle croise des femmes diplômées, elle le dit, moi, je n'ai rien à leur envier. Bref, ces quelques cas montrent le désir de ces femmes de se valoriser par d'autres activités que le travail, par le travail tel qu'il se présente à elles. S'énonce, il me semble, à travers ces divers modes d'investissement pour soi, une nette opposition à ce qui constitue pour elles des stigmates, un travail répétitif, ingrat, mal payé, sans perspective d'évolution. Elle s'empare, finalement, avec d'autant plus d'intérêt de la norme du temps personnel qu'elle est pour elle, cette norme, la possibilité de se déstigmatiser, de mener une vie normale, qui emprunte beaucoup au modèle des femmes d'en haut. Alors, je m'arrête là, mais je voudrais juste évoquer qu'il faudrait poursuivre l'analyse en évoquant le hiatus qu'on voit apparaître dans certains de ces ménages entre des femmes qui cherchent à se démarquer d'une identification populaire. C'est fini. Une seconde. Qui cherche à se démarquer d'une identification populaire, selon un processus déjà évoqué par Beverly Skeggs, et qui sont tirées vers l'extérieur, à la fois à l'extérieur du foyer et de la classe, et puis des hommes dont la sociabilité, comme le montre bien Benoît Coquart dans sa thèse, des hommes dont la sociabilité se déploie de plus en plus à l'intérieur, et aussi dans l'épaisseur d'une identité de travailleur. J'ai fini.
Merci beaucoup, Olivier, pour cette